21h sur Phare FM, la radio autrement avec vous dans la nuit autrement.
La Bible dit:
travaillez de vos propres mains pour venir en aide aux pauvres. Et souvenez-vous des paroles de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
We were like the tide in the moon, and the world probably made for two. But I knew one day you would have to go. Had to leave for a good reason. Now this pain makes it hard to breathe. And tell me how long, honey, will I be alone? Oh, no sleep, 'cause I'm constantly dreaming of you. Flowers for you, God, how I wish you'd see me too. Is there a way to make it easy? Now this pain makes it hard to breathe in, 'cause a million miles keep us apart. Oh, no sleep, 'cause I'm constantly dreaming of you.
Et la mémoire qui bégait, le temps a filé en douce sans m'en parler. Et j'ai beau faire au mieux, j'ai beau sans cesse essayer, ce que j'ai vu de mes yeux s'est délavé.
Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles.
Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux.
Je me rêvais éléphant, me voilà devenu moineau. On ne dompte pas le temps, ce drôle d'oiseau. On égare les valises qui gardent nos moments et se vide nos remises à pas de géant.
Toi le rire de mon enfance, toi l'odeur de mon école, toi mon amour perdu d'avance, j'ai peur que tu t'envoles.
Allez reste encore un peu, toi et moi devenir vieux. Allez reste encore un peu, toi et moi faire au mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir mieux. Allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux.
allez reste encore un peu.
Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux,
allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, devenir vieux, allez reste encore un peu. Toi et moi, faire au mieux.
Désert, allez reste sur Phare FM 1h06. Allez rester, la radio Autrement qui vous accompagne dans la nuit Autrement. Et je vous souhaite une bonne nuit à l'écoute de Phare FM. Pas de vie avec Claude Grainer tout à l'heure, un service qui transforme. Un rendez-vous à ne pas manquer, hommes et femmes, mode d'emploi un peu plus tard et tout de suite de la musique. Tout à l'heure on entend Jodoc, Être un autre, et tout de suite Alex Campos, Mi Veo I Te Veo. Merci de rester avec la radio Autrement.
Minuit 5h.
La nuit autrement
avec Mireille.
Tu que conozco y desconozco. Eres grande y pequeño, el que cuida de mis sueños, el guardián de mis momentos. Tu silencio y el estruendo, poderoso y siempre tierno. Mi refugio y mi desierto, mi calor y tú en el hielo. Tú en el agua y en el fuego, en el niño y el abuelo. En la letra de mis versos, mi creador y tú mi dueño. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. Y aunque pase el tiempo me veo y te veo. De mis recuerdos, en el futuro de mis sueños, en el alba y en el cielo, en el alma y en el cuerpo, en la brisa de los campos, en la fuerza del obrero, tú en el fruto del trabajo, en la patria de mis sueños. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu fiel momento, y es que no te veo y a la vez te veo. Te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. Aunque pase el tiempo, me veo y te veo. Siento que estás aquí adentro, que estás aquí adentro. No puedo escaparme ni un solo instante de tu pensamiento, de tu fiel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta. Luna llega, te veo al mirarme en aquel espejo. Y aunque pase el tiempo, me veo y te veo.
Como te olvido, mi vida. Tú lo consigo. La vida siento. Te veo. La siento cuando te veo. Como tú vivo, si te siento en mi momento.
notre miroir. Toi, sais-tu qui je suis? C'est pas vraiment la vie que j'avais rêvé d'avoir. Chaque jour, c'est la même, cette éternelle peine. Miroir, miroir, laisse-moi te dire. Parmi vous autres, vos images me rappellent que je manque à l'appel. Miroir, miroir, laisse-moi leur dire.
Maintenant, votre message pain de vie avec le pasteur Claude Gréder.
On va rapidement reprendre la suite de mon message dans le désert avec Dieu et sur la tente de la rencontre. Du temps où ils sortaient d'Égypte pour aller vers Israël, ils avaient un temple portatif. Et puis il y avait là-dedans différents éléments. Il y avait d'abord un autel des sacrifices, puis il y avait... Entre l'autel et le chapiteau, il y avait un petit bassin où on se lavait les mains. Et ensuite, on rentrait dans cette tente faite de colonnades et de planches dorées. On a parlé il y a quelque temps du lieu saint, nous y voilà. Avec à votre gauche un chandelier à 7 branches. À votre droite, une table avec dessus des pains de proposition. Et près du rideau qui donnait accès au lieu très saint, le lieu où on rencontrait Dieu, il y avait un petit autel. Il avait 1 mètre de haut, il était carré, 50 centimètres de côté, et là-dessus, on offrait chaque matin et chaque soir un encens qu'on brûlait et qui faisait symbole de la prière qui monte vers le ciel. Et nous lisons ensemble dans Exode chapitre 30, quelques versets, à partir des versets 1. Je vous lis le texte, Exode 30, verset 1, ensuite vous fabriquerez un autel en bois d'acacia pour brûler le parfum sacré. Il sera carré, il aura 50 cm de côté, 1 mètre de haut. Ses coins seront relevés, mais ils formeront une seule pièce avec l'autel. Vous les recouvrirez entièrement d'or pur, le dessus avec les coins relevés et les 4 côtés. Vous fabriquerez une bordure en or tout autour. Vous fabriquerez 2 anneaux en or et vous les fixerez de chaque côté de l'autel, au-dessus de la bordure. Vous ferez entrer des barres dans les anneaux pour le transporter. Vous couperez ces 2 barres en bois d'acacia et vous les recouvrirez d'or. Vous laisserez cet autel devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Et c'est là, Moïse, que je te rencontrerai. Chaque matin, Aaron y fera brûler une offrande de parfum au moment où il ira nettoyer les lampes du lieu saint. Et chaque soir... Il fera brûler du parfum au moment où il ira allumer les lampes. Vous continuerez toujours à brûler du parfum devant moi de génération en génération. Sur cet autel, vous n'offrirez pas de parfum ordinaire, ni des sacrifices complets, ni des produits de la terre, ni du vin. Une fois par an, Aaron le rendra pur. Il placera sur les coins relevés de cet autel le sang de l'animal offert en sacrifice pour recevoir le pardon des péchés. On commence cette cérémonie chaque année, de génération en génération. Cet autel me sera consacré et il sera uniquement réservé à mon service. On peut s'interroger quand on voit un petit peu la richesse des matériaux utilisés pour construire ce temple portatif. Quand on considère l'or, l'argent, le bronze, les tentures, les broderies faites. Quand on considère tout le travail artisanal, les heures, les centaines et les milliers d'heures investies pour construire tout cela, on peut se demander à quoi a pu servir cette tente dite la tente de la rencontre. À quoi bon toute cette débauche d'énergie, de temps et d'argent pour quelque chose finalement d'immatériel, sans compter qu'il fallait aussi entretenir les fameux prêtres, il fallait les nourrir, ils ne faisaient que s'occuper de tout le travail de la sacrificature. Et cet espace qui avait été entouré, clôturé par des toiles de fin lin tendues, était au centre du campement. Quand on entre dans le centre du campement, au centre de ce centre, il y avait ce rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et devant ce rideau, tout juste avant l'endroit où il y avait la rencontre avec le lieu trois fois saint, il y avait cet autel des parfums qui est le symbole de la prière. Tout cela pour montrer l'importance capitale et la place prééminente que jouait à l'époque la prière dans la vie du peuple de Dieu. Tout partait de là et tout dépendait de cela. Alors évidemment, ces éléments ont été abolis. Quand Jésus est arrivé, cet sacrificateur a été aboli. D'ailleurs, le temple portatif avait été remplacé par un temple en massif. Et avec l'arrivée de Jésus, eh bien, le temple dans lequel Dieu veut habiter n'est pas fait d'un temple fait de main d'homme, mais c'est le temple de nos cœurs. C'est là que Dieu veut résider. Et parmi nous, il y a deux catégories de personnes. Celles et ceux qui, comme moi, ont un jour, comme je l'ai fait il y a maintenant 25 ans de cela, je donnais mon cœur à Jésus. Et par son esprit, il est venu faire sa demeure en moi. Claude est resté Claude. Et pourtant, il n'a plus été le même à partir de ce jour-là. Ses yeux se sont ouverts sur différentes réalités, différentes valeurs. Il a réorienté sa vie, non pas parce qu'il le fallait, mais parce qu'il se savait tellement aimé d'un Dieu plein d'amour et de compassion. Amen. Mais tout a commencé par une prière, et par une prière de ma mère. Des années auparavant, alors qu'elle ne connaissait pas vraiment Dieu et que dans sa jeunesse, elle avait prié un jour comme ça, « Oh Dieu, donne-moi un grand mari. » Et bien des années plus tard, Dieu lui donnait un grand mari. Mais ceci dit, elle avait prié et Dieu, dans sa grâce, pour tous les hommes, a commencé à réagir, à agir. Plus tard, ma grand-mère faisait des heures de ménage en Suisse, chez une dame dite chrétienne, évangélique comme nous. Et cette dame essayait tant bien que mal de partager sa jeune foi avec ma grand-mère. Et ma grand-mère, un jour, elle était devenue tellement âgée qu'elle ne pouvait plus continuer à faire ses ménages. Elle a invité ma mère à y aller. Et ma mère a pris le relais. Et cette dame parlait à ma mère. Elle parlait dans un langage un peu obscur, parlait du sang de Jésus. Alors ma mère, le sang de Jésus. Mais ce qu'elle avait compris, c'est que le sang de Jésus protégeait. Alors le soir, elle nous disait que le sang de Jésus, Seigneur, que le sang de Jésus protège mes enfants. Et elle priait ainsi. Il n'y a pas quelques petites maladies infantiles, on n'a jamais eu de maladie. Dans sa foi immature, elle a même omis de nous faire vacciner. Évidemment, entre-temps, la foi a réussi, m'a mûri, et l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Médecine et foi ne se contredisent pas forcément, loin de là d'ailleurs. Mais finalement, c'est en priant ainsi que tout doucement, ma mère a cheminé. Et il y a eu des éléments, des événements très très particuliers qui ont fait que tout coup, on s'était heurté à différentes limites de la vie. Mon père avait connu une série d'accidents de travail très graves. Et dans ces moments-là, on a commencé à crier à Dieu. Et puis Dieu a répondu, mais on oublie très vite de nouveau, n'est-ce pas? Jusqu'au jour où dans le besoin, eh bien, ils ont encore prié. Et voilà qu'un collègue de travail a témoigné à ma mère. Et tout a commencé par là. Voyez-vous, tout cela, tout cet argent, toute cette énergie, toutes ces choses ont été faites pour nous montrer combien la prière a une place importante et capitale dans la vie de l'humain. Et dans la mesure où on en prend conscience et qu'on l'applique, ça peut vous changer, vous, et ça peut transformer le monde. Le réformateur John Knox, un Écossais, qui savait prier, il priait des nuits entières, eh bien, il était face à une femme d'influence, Marie Stuart, reine d'Écosse, dans les années 1500 et les poussières. Cette femme était une femme plutôt sanguinaire. On l'appelait la Bloody Mary, Marie la sanglante. Cette femme a dit: je crains plus les prières de John Knox le réformateur que toutes les armées ennemies réunies. Le comte de Zinzendorf, dans le pays morave, la Bohême actuelle, avait rencontré le Seigneur et il avait commencé à un moment donné, un dimanche après-midi, avec une petite équipe de frères, une réunion de prière qui est devenue une réunion de prière qui a duré 24 heures sur 24 pendant la centaine d'années suivantes. De ce mouvement de prière sont sortis des centaines et des centaines et des centaines de missionnaires qui ont inondé littéralement le Nouveau Monde. Et durant un de ces voyages entre l'Europe à l'époque et le Nouveau Monde en Amérique, il y avait sur un des bateaux un jeune homme du nom de John Wesley, un Anglais, qui était croyant, mais croyant traditionnel. Il croyait sans vraiment croire. Il était impressionné par la paix profonde qu'animaient ses croyants qui voyageaient avec lui alors que la barque, que le bateau menaçait de couler, de prendre l'eau. Et finalement, sur un de ces bateaux, John Wesley va trouver le Fils de Dieu, va être changé. Il va devenir lui aussi un homme de prière. Et il a accompli une révolution douce au travers de la proclamation du message de l'Évangile qui prêchera à dos de cheval pendant des années en Angleterre. La prière est la chose la plus importante. Mon thème sera un service qui transforme le monde. La prière est un service qui transforme le monde. Prier, c'est s'approcher de Dieu. C'est dans l'épître de Jacques, nous trouvons ce verset qui dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ma maman, dans sa jeune foi, je dirais puérile, a prié, a crié, s'est approchée de Dieu et Dieu s'est approché d'elle. Elle n'était pas à l'église, mais elle a prié simplement. Et je suis persuadé que parmi nous, il peut y avoir d'autres personnes qui pourraient dire: moi aussi, j'ai déjà prié et Dieu a répondu. Amen. Prier, c'est servir Dieu. Dans Luc 2, 37, il est dit, en parlant d'une certaine Anne, fille de Phanuel, qui avait déjà 84 ans à l'époque, il est dit qu'elle était restée veuve et elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. D'ailleurs, les premiers cultes chrétiens étaient essentiellement consacrés à la prière. Acte 2, verset 42, il est dit que tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Prier, c'est servir Dieu. D'ailleurs, les premiers chrétiens résolvaient la plus grande partie de leurs problèmes, vous savez comment ? En priant. À un moment donné, Pierre et Jean vont guérir un infirme au bord de la belle porte. Et cet homme va tellement se réjouir que la foule s'ameute. Et tout le monde se rend compte que Pierre et Jean ont fait un miracle. En tout cas, au travers de leur vie, un miracle a eu lieu. Et les pharisiens, les chefs religieux de l'époque, s'inquiétaient parce qu'évidemment, leur autorité était en jeu maintenant. Ils les menacent. Ils leur interdisent de prêcher le nom de Jésus. Ils rentrent chez les frères. Ils leur partagent ce qui vient de leur arriver. Et puis, ils ont convoqué une réunion de prière. Ils ont tellement prié. Écoutez voir ce qu'il est dit. Quand ils eurent fini de prier, l'endroit où ils étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à annoncer la parole de Dieu avec assurance. Malgré les menaces des autorités religieuses, après la prière, ils étaient revigorés pour prêcher avec assurance. Amen. Prier, c'est servir Dieu, mais c'est aussi veiller devant Dieu. Parce qu'à un moment donné, le Seigneur prie dans le jardin de Gethsémané, Il est devant l'arrestation, il va être exécuté le lendemain après-midi. Voilà ce qu'il va dire à ses disciples qui s'endormaient. Il leur dira, restez éveillés, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'être humain est plein de bonne volonté, mais il est faible. La prière nous permet d'entrer en contact avec le Dieu très haut, mais ce faisant, elle nous amène aussi à nous élever au-dessus des situations dans lesquelles nous sommes des fois trempés dedans jusqu'au cou. Le Dieu que nous servons s'appelle le Dieu très haut. Et quand on est très haut dans le ciel, on a une autre vision des choses quand on a le nez collé dans son guidon. L'indication profonde qui est là-dedans, c'est que lorsque nous nous mettons à prier, lorsque nous avons des problèmes, que nous nous mettons à genoux, et que nous commençons à prier pour nos situations difficiles, quelque part dans ces moments-là, eh bien, nous nous élevons intérieurement vers le Dieu très haut qui peut alors nous donner des pensées nouvelles sur la situation et nous faire voir les choses d'un autre angle, d'une autre perspective que celle que nous avons dans le terre-à-terre. Lorsque Jésus était en train de prier face à l'agonie qui allait être la sienne, eh bien, il y avait la chose très terre-à-terre, celle de voir à un moment donné les clous rentrer dans ses mains. Et cette douleur qui était devant lui pouvait lui faire oublier quel était le but qui était derrière. Et le but qui était derrière, c'était que lui devienne le sacrifice ultime qui allait effacer le péché de l'humanité pour ceux qui placeraient leur confiance en lui. Mais voyez-vous, il y a eu là un moment donné où Jésus a veillé. Il a médité, il a prié, il a crié à Dieu. Et dans sa prière, il a fait quelque chose d'extrêmement important, qui est aussi une partie de prière, qui est aussi un aspect de la prière, c'est l'adoration. C'était la nuit noire, il savait ce qu'il attendait, mais voilà ce qu'il priait. S'il était possible que la coupe passe devant moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. À ce moment-là, Jésus a fait quelque chose d'essentiel, il a capitulé. Il dit, Seigneur, c'est pas simple d'aller se faire crucifier, d'autant plus que je suis innocent. Mais si cela va permettre, et cela permettra, et cela sera le salut pour l'humanité, alors non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et à ce moment-là, il a adoré le Seigneur. C'est exactement la même chose que ce que Abraham a fait 10 siècles auparavant. Lorsque Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique, et qu'il part, et qu'il fait 3 jours de marche, et qu'il va monter sur le mont Morija, et que là, il va dire à ses serviteurs qui disent « Ok, qu'est-ce qu'on fait là ?» Il leur dit « Restez ici, moi et mon enfant, mon fils, nous allons sur la montagne pour adorer. » C'est la première fois où le mot « adorer » apparaît. Et pardonnez-moi, mais il n'y avait pas d'ambiance zen à ce moment-là. Je suis sûr que Abraham avait le moral dans les chaussettes. Mais il savait que là, il obéit à Dieu, que là, il capitule dans sa volonté. Et même quand il ne comprenait plus ce qui se passait, il savait que Dieu avait fait la promesse que c'est par ce fils-là que viendrait une descendance et que donc, Dieu serait en mesure de le ramener en vie s'il fallait le donner en sacrifice. Des fois, nous réduisons la prière à la prière de demande. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin. Oui, on y viendra aussi dans un instant. Mais il y a différents aspects de la prière. Il y a différentes facettes de la prière. Et veiller et prier en est une. Et c'est l'aspect de l'adoration. Je soumets ma volonté à la tienne. Et des fois, ça exige un temps de prière parce qu'il y a une bataille. La chair, même si elle est faible, elle est drôlement robuste. Je ne parle pas de la chair physique. Je parle de cette résistance intérieure, cette rébellion fondamentale qui existe dans l'homme contre Dieu. Sachant que Dieu poursuit des buts avec chacune de nos vies. Et je peux dire aujourd'hui, avec un peu de recul, que même les moments les plus difficiles que j'ai rencontrés, même les moments où j'étais passé dans le four, où j'ai passé sur le grill, où Dieu a permis que ma vie prenne des fois des coups, je peux dire aujourd'hui, avec du recul, Dieu a bien fait ce qu'il a fait. Il y a certaines leçons que je n'aurais jamais apprises autrement. Il y a des transformations qui se sont opérées en moi, qui ne se seraient jamais opérées si Dieu n'avait pas pris sa serpette de vigneron et comme un bon vigneron aurait taillé dans la vigne. J'ai une vigne chez moi à la maison. Et ça pousse actuellement, ça pousse de tous les côtés, ça me remplit tout l'espace là, sur la terrasse. Et avant-hier soir, j'ai pris mon sécateur et j'y suis allé. Et je me suis dit, si la vigne pouvait parler, qu'est-ce qu'elle me dirait maintenant ? Aïe, arrête ! Tu me fais mal ! Et pourtant, c'est pour son bien que je le fais. Parce qu'en la taillant, la sève va aller dans le fruit et porter du bon fruit. Amen. Veillez et priez. Enfin, la prière, c'est aussi, je dirais, dans le veillez et priez, c'est peut-être le moment des fois le matin quand vous priez. Ça m'arrive régulièrement cela. Récemment, j'ai eu une situation délicate à gérer, vraiment délicate à gérer. Et je dis, Seigneur, mais comment je vais gérer ça ? Et pendant que j'étais en prière, à un moment donné, je me suis arrêté de prier, j'ai fait silence. Je n'ai pas fait le vide, j'ai fait silence. C'est très différent. Et tout à coup, une pensée m'est venue. Le service que tu voulais faire payer, offre-le gratuitement. Toute ma stratégie était bousculée, mais j'avais une paix profonde dans mon cœur. Et quand j'ai proposé ça aux frères, évidemment, tous étaient ravis. Comment les choses continueront, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais une chose. C'est que veiller et prier, c'est à la fois adorer, mais lorsque vous priez, j'aimerais vous dire, quand vous veillez, c'est réfléchissez, méditez, laissez Dieu vous donner des nouvelles pensées. Dieu est esprit. À votre avis, comment est-ce qu'un esprit se communique à notre esprit ? Par une pensée. Lorsque vous avez prié, je vous encourage, asseyez-vous, prenez place, relaxez-vous et demandez à Dieu de vous parler. Des fois, c'est une pensée qui vient, mais des fois, c'est tout simplement la parole de Dieu que j'ouvre. Et en la lisant quotidiennement, régulièrement, tout à coup, des pensées sortent et me parlent. Et je me rends compte que c'est les pensées qu'il me faut pour l'aujourd'hui, ou pour le demain, ou pour la semaine qui vient. Amen. Veillez et priez. Et prier, c'est aussi combattre pour le Seigneur. Dans Acte 2, 12, verset 5, Pierre avait été emprisonné. Il était entre quatre escouades de quatre bonhommes, de quatre soldats, 16 soldats le surveillaient nuit et jour, mais il est dit que les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. L'Église de Jérusalem priait pour Pierre. Elle aussi, apparemment, ne connaissait pas encore le député du coin, le jeune chef des geôliers, voire le gardien ou le tribun du coin, mais connaissait le Dieu Tout-Puissant, capable de changer les temps et les circonstances. Dans Romains chapitre 15 verset 30, Paul dira à l'église de Rome, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Vous savez, la prière c'est comme avec les enfants, petits enfants, petits problèmes, n'est-ce pas? Grands enfants, grands problèmes. Petits problèmes, petites prières. Grands problèmes, grosses prières. Pour faire tomber les murailles de Jéricho, ils ont tourné 13 fois autour. Et certaines situations difficiles, eh bien, méritent des prières persévérantes. Quand je pense que Jésus a investi dans des jeunes gens, on pense que Marie, la mère de Jésus, la mère porteuse de Jésus, elle avait entre 15 et 18 ans quand l'appel de Dieu a frappé son oreille. On pense que les disciples avaient au maximum entre 15 et 25 ans. Peut-être Pierre un peu plus âgé. Tous des jeunes Dieu a utilisé et Dieu a investi dans la jeunesse. Amen. Priez aussi pour Christian qui est parti en Roumanie et en Bulgarie et en Serbie cette semaine. Il va rencontrer des frères partis d'ici, un couple roumain, un couple d'évangélistes. Vraiment, que Dieu mette dans la bouche de Christian les mots qu'il faut pour encourager ce genre de missionnaire. Amen. Priez pour lui qu'il ait les mots qu'il faut pour encourager la famille Tomic en Serbie. Enfin, priez pour les Toumio, pour les Dorobert, etc. Priez, c'est aussi combattre pour le Seigneur. Enfin, priez, c'est recevoir de la part de Dieu. Ça, on l'aime bien, n'est-ce pas? Priez, c'est recevoir. Demandez, et vous recevrez. Cherchez, frappez, car quiconque demande, celui qui cherche et celui qui frappe, on lui ouvre. Si vous qui êtes mauvais, dit Jésus, si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors combien plus le Père Céleste qui est bon par nature donnera-t-il de bonnes choses, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors demandez et vous recevrez. Ça a l'air idiot, mais vous savez quoi? Ça marche. La prière, ça marche. Oui, Dieu ne pas toujours tout de suite tout ce qu'on veut. Dieu n'a jamais fait de nous des enfants gâtés. Dieu a toujours promis qu'il nous donnerait ce qu'il nous faudrait. Il a promis de pourvoir à nos besoins, mais il n'a jamais promis de pourvoir à nos caprices. Amen. Je répète ça. Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et dans ce pain de ce jour, il y a chez nous, dans l'Est de la France ou dans les pays froids, il y a le chauffage central, il y a le besoin de se vêtir, il y a le besoin de manger, etc. Amen. Demandez. Alors, vous allez me dire, mais j'ai déjà demandé, j'ai rien reçu. T'as raison, ça aussi. Ça existe. Hein? Ou je demande et je reçois plus, qu'est-ce qui se passe? Peut-être une question à se poser. Si la prière transforme le monde, mon deuxième point sera la prière me transforme moi aussi. L'apôtre Jean écrit la chose suivante dans Jean 15. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Encore faut-il qu'il demeure en nous et que nous demeurions dans sa parole. Quand vous commencez à lire les Écritures, il y a des demandes qu'on n'adresse plus à Dieu. Seigneur, je suis là ce soir. Tu vois, je suis là ce soir. Une fois, t'as intérêt à me donner. Parce que sinon, tu sais quoi? Entre à la maison, tu perds ton temps. Dieu n'a jamais promis de donner à des arrogants. Dieu n'est débiteur de personne. Et quand on voulait s'approcher de Dieu, de cet hôtel-là, il y avait différentes étapes à traverser avant. On venait à Dieu avec un bouc, on venait à Dieu avec repentance, on venait à Dieu avec la ferme conviction qu'on a péché et qu'on a besoin de pardon. On venait à Dieu avec humilité. Dieu fait grâce aux... Mais il résiste aux... Voilà, vous avez tout compris, j'arrête de prêcher. Deuxièmement, nous avons lu ensemble que chaque matin, Aaron, il brûlait le parfum et chaque soir, il remettait une dose. Autrement dit, prier avec humilité, mais aussi prier avec régularité. Tous les jours. Question, avez-vous prié aujourd'hui? Oh, je ne parle pas de la petite prière de la table. Hein. Seigneur, tu bénis ce repas, merci pour les mains qui l'ont préparé. Amen. Non, je parle d'un temps, un temps de silence. C'est un culte personnel, c'est un culte personnel. Je trouve que ce temps de silence devant Dieu, comment t'as pas eu le temps? Ah bon? T'as passé combien de temps au journal? Au magazine féminin? T'as passé combien de temps à chatter sur le net aujourd'hui? Pour trois fois rien, pour des broutilles inutiles. T'as passé combien de temps à passer des SMS et puis en recevoir, en repasser, en repasser? Un quart d'heure, 20 minutes? C'est peut-être ce qu'il aurait fallu prendre pour passer du temps avec Dieu et sûrement que ta journée se serait passée beaucoup mieux. Sur le fronton d'une vieille ferme bavaroise, il y avait un proverbe qui était ciselé dedans, qui disait... Comme l'affûtage de la faux ne ralentit pas le travail de fauchage de l'herbe, ainsi la prière ne ralentit pas le travail. À l'heure de la productivité et de la rentabilité, c'est peut-être une chose à appliquer, un temps de prière régulier. Enfin, un dernier point, dans Exode 30, il est dit « On ne cessera jamais d'y brûler du parfum en mon honneur ». Paul dira autrement la chose, il dira « Priez sans cesse ». Conclusion, la prière est l'activité qui a la plus grande ou les plus belles, les plus grandes promesses de la part de Dieu. Demandez, cherchez, frappez à quiconque demande. Et celui qui cherche, et celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Prier, c'est servir Dieu. Prier, c'est adorer, c'est veiller sur sa voix. Prier, c'est combattre pour le Seigneur. Prier, c'est recevoir. Prier, c'est s'approcher de Dieu avec humilité, avec régularité, avec persévérance. Mais prier, ce n'est pas rabâcher des mots, ce n'est pas faire des récitations. Prier, c'est une affaire de cœur à cœur. C'est moi, mon cœur, qui rencontre le cœur de mon Père. C'est une affaire de cœur à cœur. C'est le centre du centre. Tout juste derrière cet autel, il y avait le voile. Et derrière le voile, il y avait l'arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu. Et la prière, ce n'est pas l'affaire des pasteurs ou l'affaire des anciens. c'est l'affaire de chacun d'entre nous. Parce que la prière change le monde en m'en changeant moi-même d'abord. Rapprochez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Je connais le texte de psaume 34 qui dit « Lorsque le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Et j'ai prié des fois comme ça comme un malheureux, avec une vie parfois tordue. Et Dieu a répondu à la prière. Mais il est aussi marqué d'autres versets. Et je voudrais que nous puissions finir par la prière. Il avait été dit dans les paroles de connaissance diverses choses, dont la prière, dont des prérequis pour une prière efficace, notamment le pardon. Écoutez voir, dans Ésaïe chapitre 1, je vous le lis en français courant, hein. Ésaïe chapitre 1, verset 11. Le Seigneur dit, c'est Dieu qui parle, à quoi me servent vos nombreux sacrifices? Vous brûlez entièrement les moutons de pour moi, vous m'offrez la graisse des veaux, j'en ai assez de tout cela. Du sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. Est-ce que je vous ai demandé cela? Arrêtez, mais arrêtez de m'apporter des offrandes qui ne servent à rien. La fumée, je l'ai en horreur. Vous fêtez la nouvelle lune avec le sabbat. Vous organisez de grands rassemblements et en même temps, vous commettez le mal. Je déteste vos fêtes de nouvelle lune et vos cérémonies. Elles sont pour moi un poids que je ne puis supporter. Et je suis fatigué de les supporter. Et quand vous levez les mains pour prier, Dieu dit, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. C'est le comble, ça. Hein? Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous. Rendez-vous pur. Éloignez de mes yeux vos mauvaises actions. Arrêtez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit. Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice. Défendez les droits des orphelins. Prenez en main la cause des veuves. Autrement dit, si vous voulez que la prière soit efficace, il faut une vie cohérente derrière. Vie de prière efficace et incohérence de vie par rapport à la parole de Dieu, ça ne va pas ensemble. Ça ne fait pas bon ménage et vous serez déçus. Parce que vous prierez et vous prierez et vous prierez et rien ne se passe. La bonne nouvelle et dans les versets suivants. Le Seigneur dit encore à tous ceux peut-être qui sont là et se disent « Ma vie que je mène tous les jours n'est pas très cohérente avec les Écritures. Je sais le bien que je devrais faire et je ne le fais pas. Et le mal que je ne devrais pas faire, je le fais. Au fond de moi, je sais. » Voilà ce que Dieu te dit. Venez, allons discuter. Même si vos péchés ont la couleur du sang, ils prendront la couleur du lait. S'ils sont rouges comme le feu, ils deviendront aussi blancs que la neige. Si vous acceptez d'obéir, vous pourrez manger les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez et si vous continuez à vous révolter contre moi, l'épée vous dévorera.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
Phare FM, ma radio.
Like a
Avec Simple Plan, Young and Dumb sur Phare FM. Et on poursuit avec Hommes et Femmes, mode d'emploi. Ce sera votre prochain rendez-vous. Ce sera après Loving You de Jonathan Singh et Je Pardonne, la chanson de Zaz qu'on écoute tout de suite. Merci de rester avec la radio. Autrement, bonne nuit à l'écoute de Phare FM.
Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison. La rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête, pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison, l'amertume n'est pas ma maison. La rage mais pas la rancœur, la colère mais pas l'aigreur. Aussi me pardonner, te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers, pour éprouver la lumière, des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, y lo recuerdo todo.
Loving you, oh, oh, I'll be loving you. Loving you, oh, oh, I'll be loving you.
Loving you, oh, oh, I'll be loving you. Mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Nous parlons aujourd'hui des besoins chez la femme.
Être aimée.
Eh ben oui.
C'est un grand mystère. Pour les hommes, 99,99% des femmes vont dire « J'ai besoin d'être la numéro 1 dans la vie de mon mari.
Oui.
Me sentir aimée. »
De sentir que tu passes avant tout,
avant
le,
tout
reste.
Le reste.
Et la plupart des maris vont dire « Mais ma chérie, je t'ai épousée, donc je peux pas. »
Je t'aime.
Mais voilà, je t'aime. Et si ça change, je te le dirai. Mais
c'est des preuves. Tu as besoin de preuves d'amour.
Allez.
Quand tu es sur ton ordinateur, tu fermes l'ordinateur, le téléphone, il est là-bas. Et que voilà.
Mais je vais te donner une...
Il n'y a que moi.
Tu viens de donner des actions très pratiques qui vont permettre à Guillaume de te faire sentir la première.
Quand tu penses, c'est super bête, hein. C'est tout,
ouais,
tout
mais ça. C'est,
mais c'est
ça
tellement
change la vie.
Quoi.
Ça change la vie.
Ça va réduire le nombre de raisons pour lesquelles on se dispute à quasiment rien. Quand on commence à mettre les listes de besoins de l'autre en pratique et qu'on vit avec cela au quotidien et qu'on s'améliore, eh bien, la qualité de la relation va littéralement exploser et ça va se ressentir dans tous les domaines de notre couple. Et il va y avoir une atmosphère qui sera changée. Et évidemment, Christ est le moteur de tout cela. C'est simplement apprendre le langage de l'autre.
Et j'allais te dire, quand tu as ce sentiment d'être aimé, tu te sens en sécurité et tu sens que, bah, du coup, tu es bien. Et tu restes toi-même et tu es libre d'être ce que tu es.
Oui.
Donc, il va falloir que tu creuses, que tu continues à creuser pour lui donner d'autres pistes, en fait. Parce que tu vois le visage de Guillaume au démarrage, il a besoin de plus de pistes.
Il fallait me le dire.
Par exemple, je vais vous en donner une des miennes. Si Eric est en train de discuter dans un groupe et que je rentre dans la pièce, s'il s'arrête, ça va lui prendre 20 secondes. Mais s'il dit, ah, laissez-moi vous présenter ma.
Superbe.
Voilà, il faut un adjectif qui change à chaque fois. Femme. C'est une phrase, mais il a interrompu ce qu'il faisait pour me présenter aux gens avec qui il était. Il peut pas le deviner, parce que j'aime pas du tout les compliments, surtout pas en public, mais celui-ci, là, ça me change la vie. La deuxième chez la femme, c'est qu'elle a besoin de sentir que son mari est le chef spirituel de la famille. Ça te parle ?
Ah oui, oui, complètement. Bah, c'est pareil, c'est pour moi, c'est ce qui me sécurise. C'est qu'il y a des moments où je peux le challenger en lui disant, mais... Est-ce que vraiment tu sens que c'est ce que le Seigneur te demande ? Est-ce que tu t'es mis devant le Seigneur dans cette décision ? Est-ce que tu sens que c'est vraiment ça ? Et s'il me dit non, bah, je me sens pas en sécurité. Alors que s'il me dit oui, oui, j'ai placé ça devant le Seigneur, c'est une conviction dans mon cœur, je suis en paix.
Cette sécurité spirituelle, c'est comme un toit de la maison qui couvre en fait la famille et qui protège. Ça vaut le coup de continuer de creuser pour que tu arrives à mettre des mots précis pour que Guillaume sache exactement. Par exemple, est-ce que quand il a reçu quelque chose de Dieu, il vient t'en parler et te dire, oh, je viens de dire un truc super, je voudrais t'en parler, ou c'est toi qui dois le définir en fait, pour que Guillaume il sache exactement les étapes.
De la même manière, Guillaume ne peut pas essayer de deviner ce qui va fonctionner avec toi, même si je pense que sans aucun doute dans ce que tu as dit, tu étais sans doute très proche de la vérité.
Et tu pourrais être plus précise.
Encore, si tu es plus précise et que Guillaume, en quelque sorte, a la liste des actions concrètes et sait exactement, ça touchera ton cœur à chaque fois à la perfection.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Phare FM, ma radio.
Dans les doutes, tu peux compter sur moi. Tout au long de la route, on en croisera de ceux qui ne croient pas ces choses-là. Sans doute qu'ils ne voient pas ce qu'on voit. Relève la tête, regarde au-delà de tout ce qui n'est pas ces choses-là. Et laisse-les, laisse-les, je t'en prie, ne laisse jamais tomber. Un jour le temps le rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble, nos différences s'entendent. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble. On va traverser le temps, que même l'ennui se lasse. Et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble, ensemble. Nous sera plus fort que ça. On fera la paire, on ira les chercher, on ira crier s'ils veulent nous empêcher. Pour nous, je ferai n'importe quoi, pour que tu te souviennes que jamais les autres pourront te priver de ces choses-là. Et laisse-les, laisse-les, je t'en prie, ne laisse jamais tomber. Un jour le temps le rendra à ceux qui ne se sont jamais cachés. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais on se ressemble. Nos différences s'entendent, rien n'est gagné, non, rien n'est gagné, jamais on se ressemble. On va traverser le temps, que même l'ennui se lasse, et rien sur nous ne laisse une trace, on marche ensemble, ensemble. Quand on se ressemble, les différences s'arrêtent. Si l'on n'a de cesse que de sourire avec, tous les mots qui blessent pourraient disparaître, disparaître. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble, nos différences s'entendent. Rien n'est gagné, non, rien n'est gagné. Jamais on se ressemble. On va traverser le temps, que même l'ennui se lasse, et rien sur nous ne laisse une trace. On marche ensemble.